Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
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 Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur votre radio du Comte à Venessin, RTVFM, on est bien sûr sur le 102.2 avec mon cher Alexandre. Ça va Alexandre ?
Salut Lionel, bonsoir à tous, oui ça va, ça va.
Ouais parce qu'en fait, pour l'anecdote, vendredi tu t'es fait,
vendredi je me suis fait opérer des dents de sagesse,
T'es un peu plus sage aujourd'hui.
Donc j'ai une tête de hamster en gros, pour faire simple, mais ça va.
T'as pu remarquer, j'ai pas parlé d'hamster. J'ai parlé sage, de sagesse.
Ça va, pas. Sur la radio, t'as rien dit pour l'instant.
Non, mais j'ai fait une photo.
Ouais.
Et qu'on mettra sur le podcast.
Ah, bah forcément.
Forcément. Bon, est-ce que tu sais quels sont les sports dont on va parler aujourd'hui ?
Bah, tu m'en avais dit il y a deux semaines, comme la semaine dernière, on n'a pas eu d'émission.
Ouais, on a fait un pont.
Et comme tu ne m'as pas du tout rappelé ce que c'était.
T'as trop de mémoire.
Et que je t'avais demandé, oui.
Voilà, bon, mais écoute, je vais te rafraîchir la mémoire. Alors, en première partie d'émission, oui. On va parler de plongée subaquatique. Et plus précisément de PSP, plongée sportive en piscine. Voilà, oui. Tu vas voir, c'est une nouvelle discipline très très prisée, très intéressante. J'ai eu la chance d'en pratiquer un petit peu aussi, mais je suis avec une spécialiste, donc on va en parler avec Sandrine Valentin. Ça va Sandrine ?
Bonsoir Lionel, oui, tout va bien, merci.
Alors tu es trésorière donc du club, le club subaquatique du Comte à Venessin. Tu es monitrice diplômée d'État de plongée.
Depuis peu, oui, depuis l'année dernière, mais effectivement, je suis monitrice au club, voilà, depuis quelques années déjà.
Et tu es également responsable de la section PSP.
À Carpentras.
Et au niveau du comité régional.
Tout à fait.
Voilà, donc on aura l'occasion justement de développer sur cette pratique. Et tu es accompagné d'Olivier Vidal. Ça va Olivier ?
Bonsoir, oui, très bien, merci.
Donc membre du conseil d'administration et initiateur de plongée.
Tout à fait.
Voilà, donc toi, ça, c'est, Alexandre, c'est la première partie de l'émission. En deuxième partie d'émission, on va parler de karting.
D'accord.
C'est pas mal le karting.
Ah oui, c'est bien le karting.
Voilà, donc on aura avec nous Jean-Marc Portal.
On les avait reçus les dernières, si je me souviens bien.
Ouais. Donc là, on aura Jean-Marc Portal, le nouveau président du club. Et on va pouvoir parler justement de cette pratique qui est qui est assez prisée. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est dangereux? Donc on aura la réponse tout à l'heure.
D'accord.
Bon, avant de parler donc de plongée, mon petit Alexandre, est-ce que tu as des résultats particuliers à nous donner ?
Alors, on a des résultats nationaux. Donc, j'ai des résultats nationaux parce que quand même, ça a été important ce week-end. On va commencer avec le foot, la Ligue 1, parce que cette Ligue 1 commence à devenir très, très intéressante, de plus en plus serrée. L'Olympique de Marseille fait 0-0 à Nancy. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 contre Montpellier. Le carton du week-end, c'est Lorient qui s'est imposé 5-1 contre le FC Metz. À noter le match très important entre Lyon et Monaco qui a été gagné par Monaco 2-1. Et Nice n'a pas joué ce week-end. Au classement, Monaco est premier avec 80 points et un match de retard sur le Paris Saint-Germain. Donc ils peuvent encore reprendre 3 points d'avance.
Ouais, mais en tout cas, Monaco est pratiquement sûr de gagner.
Bah, ça dépend. S'ils arrivent à reprendre 3 points d'avance, puis après, il faut arriver à gérer aussi la Ligue des Champions, parce qu'ils sont en demi-finale contre la Juventus, qui est la meilleure défense européenne. Donc, ça va être dur.
T'as un petit pronostic ?
Un petit pronostic ?
Allez.
Ah, pour Monaco-Juventus, moi, je vois Monaco.
Bah oui.
Honnêtement, sur le premier match, je vois bien un petit 2-0. Et au match retour, un match nul ou quoi. Parce que Monaco, ils ont la meilleure attaque européenne. Et Kylian Mbappé, il fait des merveilles cette année. Ce joueur, il a 18 ans, c'est un génie. Et c'est obligé que Monaco doit aller en finale.
En tout cas, c'est vraiment un super exemple. Et puis,
c'est bien. Et puis cette année, on a deux clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe.
Voilà, ça montre que le niveau français, quand même.
On a Lyon en Europa League. Alors même si l'Europa League, c'est la compétition juste en dessous, ils sont quand même en demi-finale contre l'Ajax. Ça va être un match largement possible pour eux. Parce que cette année, en Ligue Europa, il n'y a pas de grand club. Le seul grand club, c'est Manchester United. Et à mon avis, ce seront les futurs champions d'Europe, Europa League.
Je vais poser la question à mes invités. Tiens, Olivier, tu t'intéresses un petit peu au football ?
Pas vraiment.
C'est pas ton truc ?
Pas vraiment.
Et toi, Sandrine ?
C'est pas un sport que j'affectionne beaucoup.
Encore
non,
moins.
C'est pas du tout.
C'est pas un sport de filles, c'est pour ça. Quoi.
Mais ce qui était étonnant.
Ouais, mais pourtant, quand on voit les féminines ouais. Lyon, bah, Paris.
Paris qui a gagné 3-1 qui a gagné 3-1 à Barcelone.
Ouais, a priori, ça marche bien le football féminin, mais bon, pas plus. On en voit pas beaucoup à la télé du football. Hein.
Bah, non.
Féminin, je parle.
Oui,
et puis féminin. Les garçons.
Oui, parce que les autres, on les voit un petit peu.
Bah, les autres, on voit que ça. Mais, et en plus, elles jouent bien.
Oui. Oui,
apparemment, oui, mais bon. Ouais.
Donc,
elles sont peut-être plus francs, non, les filles.
Oui.
C'est peut-être un peu moins.
Mais honnêtement, ce week-end, le match le plus important, c'était pas en Ligue 1, c'était en Espagne. C'était le Clasico Real Barça.
Et ça a donné quoi?
Ah, ça a été un match ouf, enfin monumental. Honnêtement, un niveau de jeu incroyable. Et le Real a perdu 3-2 sur sa pelouse, Santiago Bernabéu, doublé Lionel Messi.
Donc c'est pas ce week-end, c'était le week-end dernier.
C'était ce week-end-là qui vient d'arriver, qui vient de passer là. C'était hier soir le match. Et super match de Barcelone.
Ensuite, on avait quoi?
Ensuite, alors il y a encore des résultats nationaux au niveau du rugby. Et là, c'est au niveau de la Coupe d'Europe. On va commencer donc avec la Champions Cup, avec Clermont qui s'est imposé 27-22 en demi-finale. Il sera en finale contre les Saracens. Si je peux donner mon avis, je pense que le match contre les Saracens est déjà perdu. Voilà, je vais donner mon avis.
Ah ouais?
Oui. Oui, c'est vrai, la semaine dernière. Oui. Et oui, je pense que Clermont va perdre parce que les Saracens, c'est la meilleure équipe en Coupe d'Europe.
T'as vu comment tu es hein.
Non,
Clermont va perdre.
Faut dire la vérité. Clermont, les Saracens, ils n'ont pas perdu un match en Coupe d'Europe
mais
depuis
ils vont
deux
perdre,
saisons.
Hein.
Depuis
ah, ils vont
deux
perdre.
Saisons.
Non, mais ils vont perdre.
Ils peuvent pas perdre. Ils peuvent pas perdre. C'est la meilleure équipe actuelle. En Europe, c'est la meilleure équipe.
C'est la meilleure équipe. Mais
bon, par contre, il y aura Toulouse qui arrive
dans
quelques années.
C'est la deuxième meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est Clermont.
Non, Clermont, ils gagneront.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Clermont, de toute façon, chaque année, c'est toujours la même chose. Ils vont aller loin et ils vont perdre. Là, ça va être pareil. En top 14, ça va être pareil. Ils vont être en demi-finale, ils vont perdre. Là, et ça va être La Rochelle qui va être champion.
Vrai. Là, c'est vrai que tu as raison.
Chaque année, c'est pareil. Clermont, c'est toujours la même chose.
C'est le mental. C'est un peu comme Carpentras.
Ils
ont du mal à aller jusqu'au bout.
Oh, Carpentras, ça va. On en parlera après, tu vas voir. On en parlera après, tu vas voir. Là, on va passer au Challenge Cup. Donc, la Challenge Cup, c'est la petite Coupe d'Europe au rugby à 15. Et il y avait une demi-finale, le Stade français contre BAF. Et le Stade français a failli perdre, mais s'est imposé à domicile 28-25 au terme d'un match fou. Donc, deux clubs en finale de Coupe d'Europe. Le Sport français ce week-end s'est quand même bien sorti. Parce que même au niveau européen, que ce soit en foot en rugby, on s'en sort finale plutôt bien. Donc, résultats nationaux très très positifs.
Non, et puis c'est une des premières années où on a deux clubs qui sont bien placés. Ouais,
c'est bah oui, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, d'habitude, c'est Toulouse, Toulon.
Ouais.
Et c'est tout. Enfin, c'est
non, non, mais c'est
deux
bien.
Seules équipes qui ont vraiment marqué en Europe.
De toute façon, que ce soit au niveau du rugby ou au niveau du foot, c'est vrai que le tableau a quand même un peu changé.
Année, je trouve que le niveau a augmenté dans le sport français. Déjà, parce que dans le foot, on voit Monaco qui est une équipe. Le niveau qu'a Monaco actuellement, capable de gagner Dortmund, qui est quand même l'une des meilleures équipes européennes, c'est énorme. Et en France, c'est pareil, hein, on a des équipes de rugby incroyables.
Non, et puis on voit aussi que les centres de formation fonctionnent très très bien, parce que enfin, Monaco, le centre de formation,
Monaco,
les joueurs viennent
Monaco,
du centre de formation.
Monaco, je crois que c'est l'un des meilleurs centres de formation européens. C'est-à-dire ouais. qu'il est au même niveau que celui du Barça, que celui de Lyon, qui est aussi un très très bon centre de formation, du Real Madrid aussi. Et des petits clubs comme. Enfin, des grands clubs après. Comme Manchester United, Chelsea, Bayern Munich.
Bon.
Et on va finir sur du rugby à 13.
Ouais, donc la semaine dernière, c'était Carpentras.
C'était des rendez-vous importants. C'est ça, c'était les U15. Les U15 de Carpentras qui jouaient contre.
C'est ton équipe ça?
C'est l'équipe juste en dessous.
Ah, juste en dessous. Ah, t'es un peu plus grand.
Moi, je suis à la catégorie au-dessus.
D'accord.
Et donc, ils jouaient en finale de Coupe de France.
Ouais.
Donc ils avaient gagné contre Lézignan en demi-finale, qui est le match qui devait être le plus difficile.
Mmh.
Et malheureusement, ils se sont inclinés 23-22. Ils ont pris un drop en dernière action de match.
À un point.
Ils ont à un point inclinés. Et ils ont perdu la Coupe de France. Donc grosse déception.
Ah bah oui, ça j'imagine.
Et après c'est le rugby, hein, ça arrive. Et Avignon en U17 jouait contre le 13 catalan, donc Perpignan, et ils ont perdu 44-12. Là par contre, il n'y a pas eu photo.
Ça s'explique un petit peu, non? Parce que le 13 catalan.
Pas forcément, parce que Avignon. Parce qu'Avignon, c'est une équipe qui peut largement gagner la Coupe et le championnat. Ils ont gagné
même face
au
13
catalan. La Coupe de France, ils sont tenants du titre. C'était les tenants du titre. L'année dernière, la Coupe de France, c'est eux qui l'ont gagné.
Donc, c'est pas une défaite
Donc,
qui peut s'expliquer.
C'est pas très logique. Et à noter que la saison n'est pas finie pour Carpentras, que ce soit en U15 ou en U17. Parce qu'il faut savoir que déjà en U17, l'équipe de Carpentras, mon groupe, l'équipe de Carpentras est engagée encore dans le challenge et on se déplace à la Réole le 6 mai. Et si on gagne, on sera en quart le 13 mai. Et les minimes sont encore en championnat également.
Et les prochains matchs pour les minimes ?
Les prochains matchs, ce sera pareil, ce sera le 6 mai. Mmh. Ils savent pas encore contre qui ils jouent. Et il y aura des matchs aller-retour pour eux.
D'accord, ok. Bon, il y a autre chose ?
Non.
Rien du tout ?
Rien du tout.
Bon, on va une petite pause et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Can't you see it's who I'm watching? I am hot for you in every way. And turn around, let me see you. Wanna free you with my rhythm. I know you can't get enough when I turn up with my rhythm. Your body.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà donc bonsoir à tous. De nouveau de retour dans le studio de RTVFM. Alors, vous avez certainement dû l'entendre, on a eu un petit problème au début de l'émission, alors qui sont des problèmes qui sont indépendants, bien sûr, de la volonté de mon petit Bruno. Tu vas bien, Bruno ?
Ça va, merci.
Bon, ouais, des petits problèmes, voilà. Donc, on n'a pas pu entendre, mon petit Alexandre, les résultats, l'intégralité en tout cas des résultats.
Eh oui.
Mais ouais. C'est pas grave, parce qu'il y a
la rediffusion demain.
Ouais, Bruno,
La rediffusion demain, le podcast aussi mis sur Facebook demain après-midi, et la rediffusion lundi prochain.
Ah bon ? Bon, d'accord. On fait une rediffusion lundi
prochain.
Ah
oui, parce que lundi prochain, on n'est pas là.
Ouais, bah, si tu veux une rediffusion, on va négocier. Mais bon, en tout cas, demain, il y a la rediffusion de 6h30 à
8h. Déjà de 6h30 à 8h, et le podcast sera aussi sur la page Facebook, RTVFM et sur le site www.rtvfm.net. Ouais.
Alors par contre, je vous promets pas la rediffusion lundi prochain. Il va falloir que je négocie avec les techniciens.
Ah, ça c'est encore autre chose.
Voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, la semaine prochaine, effectivement, il n'y a pas d'émission.
Il n'y a pas d'émission.
Mais le 8 mai, il y en aura une.
Ah,
ouais,
quand même.
Ouais, ouais. On en parlera le 8 mai.
D'accord.
Alors, je vous présente nos invités. Hein, je vous les représente. Tout d'abord, Sandrine Valentin.
Bonjour Lionel.
Ça va Sandrine ?
Très bien, merci.
Alors, tu fais partie du club subaquatique du Comtat-Venaissin.
Oui, c'est SCV pour les intimes.
Voilà, tu es trésorière du club, monitrice diplômée d'État et responsable de la section PSP, la plongée sportive en piscine, au sein du club et au sein du comité régional.
Tout à fait.
Voilà, on en parlera plus précisément dans quelques instants. Mais je vous présente également Olivier Vidal.
Bonsoir. Salut, Olivier. Lionel.
Membre du conseil d'administration et initiateur de plongée.
Tout à fait.
Bon. Il y a du monde, il y a beaucoup d'adhérents au club ?
On est à ce jour 90 adhérents.
Ah, c'est pas mal.
Donc, une belle session cette année.
Ça fait une belle brochette. Ouais.
Alors, et parmi ces 90 adhérents, combien font de la PSP ?
Ah, c'est assez variable, mais cette année, on a une bonne session de PSP aussi. Donc, comme il y a beaucoup de niveaux aussi à passer, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai quand même réussi à récupérer une dizaine de personnes. On était, je crois, 11 compétiteurs au dernier championnat départemental et régional, puisqu'il y a déjà eu ces deux championnats cette année, en février et en mars.
En mars. Alors, la PSP, en fait, c'est quoi, en fait ?
Bah, la PSP, c'est tout simplement la plongée avec un bloc, comme on pourrait faire de la plongée, sauf que ça se passe en piscine et que c'est sportif. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des épreuves individuelles ou collectives et tout ça chronométré et dans les bassins, donc à la piscine de Carpentras, comme on a l'habitude de faire nos activités.
C'est comme des parcours du combattant ?
Du combattant, non, peut-être pas, mais pour certains, oui. Mais non, alors on place des cerceaux dans une piscine, on doit passer à l'intérieur des cerceaux, on doit gonfler les parachutes. En fait, ça allie technique et rapidité. Donc c'est bien pour faire des entraînements un petit peu plus spécifiques et garder nos licenciés, les faire s'entraîner un petit peu.
Mais cette discipline, ça fait longtemps qu'elle existe ?
Elle
Je parle pas au niveau du département, mais au niveau national.
Au niveau national, en fait, il y a une commission qui s'est créée en 2011. Donc, c'est assez international. Ça vient beaucoup des pays de l'Est, hein, la Russie, l'Estonie, etc. Et l'Espagne aussi. Et chez eux, ça se fait depuis un petit moment. Et en France, c'est arrivé en 2010-2011. Voilà, on a commencé à faire des meetings, les premiers meetings qu'on a fait à Nîmes et Carpentras. Depuis 2012, on a créé une session de PSP et donc on participe déjà à plusieurs championnats, notamment les deux premiers championnats de France qui ont eu lieu en 2015 à Nîmes et en 2016, l'année dernière, à Chartres.
Et au niveau des épreuves, il y en a combien et
alors, officiellement, il y a 7 épreuves. Donc, suivant les championnats départementaux ou régionaux et suivant les piscines qu'on peut avoir, on ne fait pas tout le temps toutes les épreuves.
Bah, c'est vrai que 7 épreuves, ça fait
énorme. 7 épreuves, ça fait beaucoup. Et comme il y a de plus en plus de participants, forcément, il nous faut du temps et un timing. Hein. Il nous faut aussi toute une préparation. On a besoin de juges, d'arbitres, etc. Donc, on a des créneaux de piscine sur, en général, une journée. Et de manière générale, on arrive à faire environ 5 épreuves dans la journée.
Alors, les 7 épreuves, c'est quoi ?
Alors, il y a des épreuves qui sont assez simples, comme un 100 mètres, par exemple. En fait, on est avec notre bloc. Et,
donc,
avec
le bloc, c'est la bouteille.
La bouteille de plongée. L'équipement, en fait, du plongeur. Et on doit réaliser un parcours de 100 mètres le plus rapidement possible sous l'eau.
Sans obstacle ?
Sans obstacle. Ça, c'est une des épreuves qui est facile, mais du coup, qui a été un petit peu supprimée lors des championnats parce qu'elle n'était pas suffisamment technique. et pas forcément les plus appréciés. Mmh. Par contre, on a une épreuve qui est très rapide, qui s'appelle le 25 mètres immersion. Et là, il faut faire une distance de 23 mètres avant de trouver un plomb. Mmh. Et sur ce plomb, on va venir accrocher un parachute. C'est nos parachutes qu'on utilise aussi également en plongée, hein, qui sont un petit peu différents parce qu'on n'a pas la ficelle qu'on peut avoir en plongée.
Et le parachute en plongée.
On vient l'accrocher sur ce plomb et il faut émerger ce plomb de la piscine le plus rapidement possible. Voilà, ces épreuves qui sont de l'ordre de, pour les meilleurs, 18 à 19 secondes. Donc ça va très très vite.
Ah oui, ça va vite.
Oui, ça va très très vite.
Ensuite.
Ensuite, on a une épreuve technique qui. Alors ça, c'est des épreuves. Tout ça, c'est des épreuves individuelles. Mais on a également donc des épreuves collectives, comme par exemple le combiné, où là, on va lier plusieurs postes avec donc justement des obstacles pendant un parcours de 100 mètres. Donc le parcours de 100 mètres, il est fait également, mais c'est là qu'on va installer des tunnels faits avec des cerceaux. Donc plusieurs tunnels où on va passer à l'intérieur des tunnels sans toucher, bien sûr, puisqu'il y a des pénalités si on touche. Tout est toujours très chronométré, évidemment. On va également s'échanger le détendeur de secours avec le partenaire. On va effectuer un vidage de masque. On va transporter un mannequin. On va câpler et décâpler. Ce qu'on appelle câpler et décâpler, c'est enlever son équipement, le poser au fond de la piscine, puis le récupérer. Mmh. Voilà, donc c'est toute une série d'obstacles sur 100 mètres. Et bien sûr, tout ça, c'est chronométré et visé par les juges arbitres qui sont autour du bassin.
Et sinon, il faut, parce que je sais qu'en plongée, il y a des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc.
Tout à fait.
Est-ce qu'il faut un niveau particulier pour pratiquer la PSP ou non ?
Alors, pour la pratiquer, non, dans un premier temps, puisqu'on peut très bien commencer la PSP juste pour le loisir et apprendre à faire toutes ces choses en piscine. Alors bien sûr, avec un initiateur en piscine dans un premier temps. C'est en train de changer, c'est une commission qui est assez nouvelle. Et on est en train de créer justement un moniteur entraîneur de PSP. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, on peut très bien préparer la PSP sans rien. Par contre, si on veut faire de la compétition, il va nous falloir minimum le niveau 1 pour entrer en compétition pour les adultes et le niveau plongeur argent, qui est un niveau à correspondant pour les enfants. À partir de 10 ans.
À partir de 10 ans.
À partir de 10 ans,
voilà. C'est l'âge
minimum. On peut pratiquer la plongée à partir de 8 ans, mais c'est l'âge minimum pour avoir le plongeur d'or pour les enfants, c'est 10 ans. Donc à partir de cet âge-là, on peut effectuer la plongée sportive en piscine. On a d'ailleurs des jeunes à Carpentras qui ont.
Il y a combien de jeunes qui pratiquent la PSP à Carpentras? Je parle de jeunes. Hein.
De jeunes, actuellement, on a deux jeunes garçons qui pratiquent la PSP, qui ont entre 12 et 15 ans.
Et au niveau de. Et toi, Olivier, tu pratiques la PSP ou pas ?
Non, je fais un peu au début avec Sandrine qui a donné lancé un peu le.
Il était là, oui,
au début,
lancement.
Au début, au lancement, voilà. Puis après, j'ai pas vraiment adhéré.
Non, c'est pas.
Bah, pour moi, le chronomètre, ça n'a rien à faire avec la plongée. Bon, après, c'est une question de.
Après, ça permet justement de rendre les séances plus ludiques.
Ça permet de rendre les séances ludiques et ça permet surtout de faire des exercices qu'on ne fait pas forcément en mer parce qu'on apprend à faire quelques exercices en piscine une fois ou deux. Et là, on les renouvelle plusieurs fois à chaque fois qu'on fait un peu de PSP. Ça affine un peu les techniques. Hein, c'est pas mal. Hein. Pour ça, c'est bien. Ouais.
Ben oui, parce qu'en fait, la plupart des épreuves que tu as pu énoncer, ce sont des épreuves qu'on retrouve dans les niveaux pratiquement.
C'est des épreuves techniques voilà, qu'on retrouve dans chaque niveau.
Sauf
et
le
ça...
câblé.
Hormis enlever son bloc.
Forcément, voilà.
Mais en règle générale. Et puis, ça permet justement aux personnes qui sont débutantes de refaire gréer les blocs, comme on dit, c'est-à-dire s'occuper de leur équipement, etc. Et pour eux, c'est un bien de venir faire de la PSP parce que voilà, ça leur fait un entraînement supplémentaire et une technique, pour finir leur technique en fait. Et du coup, quand ils arrivent en plongée, ben, y a des choses qu'ils ont l'habitude de faire et pour eux, c'est, je pense, un plus.
Ah oui, ça j'imagine.
Ça fait un entraînement au quotidien parce que les exercices, on les fait quand on passe un niveau 1 par exemple. Et puis une fois que l'examen est fait, ben, en mer, on ne leur demande plus de refaire les exercices forcément, quoi. Là, quelqu'un qui fait de la PSP, ben, régulièrement, il va refaire des exercices qui ressemblent à ceux qu'on leur a demandé pendant l'examen. Et ça leur permet de garder un peu de technique. Quoi.
Après, il y a le côté compétiteur que tout le monde n'a pas. Mais très, très vite, on se prend au jeu quand même. Parce qu'on a quand même, nous, des compétitions en Provence-Alpes qui sont quand même assez sympas. On reste dans un domaine convivial. Et donc, on se prend pas trop la tête, quoi. Donc, on est là pour gagner, bien sûr,
oui.
Mais aussi pour s'amuser, faire des rencontres interclubs, notamment à Carpentras aussi l'hiver, on se fait une belle rencontre avec les gens du département, voire de la région, voire au-delà de la région, même puisqu'il y a des Lyonnais qui viennent, des Varois qui viennent aussi. Et du coup, ça permet de se rencontrer entre autres personnes du club et partager des moments sympathiques.
Et puis, vous participez quand même au championnat de France.
Et on est quand même qualifié pour les championnats de France. Donc, c'est quand même...
Alors déjà, l'an dernier, c'était à Chartres.
L'année dernière à Chartres, tout à fait.
Vous avez participé.
Voilà.
Il y avait combien de compétiteurs ?
L'année dernière, on était 5 compétiteurs à participer. Et cette année, on sera autant 5 compétiteurs. Alors, il y a eu plus de compétiteurs qui se sont qualifiés. On était une dizaine, je crois, quasiment. Tout le monde s'est qualifié. On a fait un très, très beau championnat régional à Fuveau. C'était au mois de avril. Et on a eu vraiment beaucoup de médailles. On était sur 9 clubs. On a quand même été le premier club qui a
de la région.
Remporté, voilà, de la région, qui a remporté en termes de points. On a été les premiers, donc on a fait vraiment une belle prestation. Et du coup, quasiment toutes les personnes ont été qualifiées pour le championnat de France. Malheureusement, le championnat de France, ça tombe donc on a le 20 et le 21 mai à Montluçon. Donc, c'est pas facile pour tout le monde de se déplacer.
C'est vrai que c'est pas la porte à côté.
C'est pas la porte à côté. Donc, Chartres, c'est ce qui avait déjà mis un petit peu des freins. Et là, du coup, Montluçon, c'est pas facile non plus. Mais on est quand même 5 personnes à se déplacer à ce jour.
Non, mais c'est bien, comme ça va vous permettre de représenter,
Le club,
club de Carpentras. Et également
exactement.
La région.
Et la région, tout à fait.
Parce qu'au niveau
le département et la région.
Au niveau régional, vous êtes nombreux à y aller ou tu sais pas ?
Alors, au niveau régional, en fait, on va être 2 clubs parce qu'il y a le club de Aix. Qui est un très très bon club au niveau PSP, il y a un championnat.
Oui, et même l'an dernier, je crois qu'il s'est très très bien classé.
Oui, il s'est très bien classé. Lui, il va même participer national. À la Coupe du Monde. Donc, il a déjà participé cette année à la Coupe du Monde à Marrakech. Et cette année, c'est parti pour aussi une qualification dans la Coupe du Monde. Et du coup, donc, ils sont aussi, je crois, une dizaine à participer au championnat de France à Montluçon.
Et là, tu parles de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il faut des qualifications particulières pour participer à la Coupe du Monde ?
Oui, après, c'est vrai que vu
parce que je crois qu'il y a une compétitrice de Carpentras qui a participé, non ? Il n'y a pas deux, trois ans ?
Mais moi, je suis allée moi-même au championnat du monde à Saint-Pétersbourg et j'ai participé à quelques épreuves. Mais participer, voilà, j'ai rien remporté.
Ah, oui, bon, l'essentiel c'est de participer. Hein.
C'est ce qu'on dit.
C'est bien, c'est ça.
Mais c'était une super expérience, c'était sympa. Oui, de Carpentras, oui, et de la région.
Ben, c'est bien.
Oui, mais c'était sympa. C'était une très belle expérience aussi.
Et
ouais.
Pour participer à ces championnats du monde, il y a.
Alors, la première fois, non, parce qu'en fait, nous, comme on est un petit peu au départ de la PSP hein, dans la région, on a été nommés, si tu veux, pour s'occuper un petit peu justement, pour être président, enfin, ou référent en tout cas, dans le département et dans la région. Et suite à ça, c'est pour ça qu'ils m'ont. Il y avait quelques personnes qui ont été sollicitées pour partir au championnat, pour participer. Maintenant, il y a des qualifications, puisqu'il y a des championnats de France, il y a les gens les plus. Les meilleurs, hein, les meilleurs temps, les meilleurs chronos qui vont partir pour affronter surtout les bonnes équipes de l'Est, les Russes, Estoniens ou Espagnols, qui sont vraiment très très forts
ce
jeu.
Hein. Ouais, eux sont forts.
Ouais,
hein.
Ils sont très très forts.
Mais tu vois, Olivier, tu pourrais justement, même si le chrono ne t'intéresse pas, ça te permettrait de voyager aussi.
Capable. Je pourrais voyager, voilà. Mais je voyage quand même, mais pas pour la PSP.
Non, pas pour la PSP.
Pas vraiment, non.
Montluçon, c'est joli.
Et au niveau
Montluçon, c'est pas mal, ouais.
Oui, oui, c'est l'Auvergne.
Il manque un peu les palmiers.
C'est
pas mal.
C'est vert. Non, non, mais franchement, attends, c'est ma région, donc.
Oui,
non,
c'est très bien.
Ah, c'est magnifique.
Voilà, c'est magnifique. Hein.
C'est pas, t'as pas le quoi de loger, non ?
L'Auvergne.
C'est la plus belle région de France.
Non, parce que moi, je suis un peu plus bas quand même.
C'est la plus belle région de France.
C'est ça. Ah, ben tu vois, Olivier.
Tu vois, ouais,
tu sais reconnaître les.
Je sais reconnaître.
Choses,
hein. Voilà, ouais. Même s'il n'y a pas de palmiers, c'est bien.
Mais c'est vrai que la plongée, souvent, ça se fait en mer, donc c'est un petit peu différent. Et sinon, au niveau des mondiaux, les épreuves sont les mêmes ?
Alors oui, ça sera quasiment, je ne sais pas là pour cette année, mais l'année dernière en tout cas à Marrakech, oui, c'était quasiment les mêmes épreuves, oui.
D'accord.
Donc, on retrouve aussi des épreuves supplémentaires voilà, dans les sets, mais en général, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve au niveau des championnats.
Allez, on fait une petite pause et puis après, on va parler de la plongée en bouteille, vraiment pour les puristes hein, avec Olivier. On va parler également du club et on se retrouve juste après Martin Garrix.
It was great at the very start, hands on each other,
couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans le studio de Carpentrasserre, on est bien sûr en direct depuis le 102.2, malgré un début d'émission un petit peu chaotique, mais maintenant c'est rentré dans l'ordre. Et je vais vous présenter nos invités, tout le monde est arrivé. Hein, donc au niveau de la plongée subaquatique, le club subaquatique du Comtat Venessin, Sandrine Valentin. Rebonsoir Sandrine.
Rebonsoir Lionel.
Et Olivier Vidal. Rebonsoir Olivier.
Rebonsoir.
Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons karting avec l'ASK Comtat Venessin. Et pour en parler, on sera avec Jean-Marc Portal. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Nouveau président du club.
Nouveau depuis 6 mois.
Depuis 6 mois, donc on aura l'occasion justement de parler un petit peu de ça, et puis également parler d'une triste nouvelle qui s'est abattue sur le club il n'y a pas si longtemps que ça.
Malheureusement.
La disparition d'Étienne, on y reviendra tout à l'heure.
D'accord.
Donc, la plongée subaquatique, on a parlé donc de la PSP, Olivier, c'était pas trop ta spécialité.
Si, c'est très bien l'aspect de la PSP.
Je participe plus. Tu participes voilà. Plus.
Je m'occupe d'autre chose, j'ai laissé
moralement,
ça à Sandrine,
tu les aides.
Voilà. Il nous encourage.
Moralement,
voilà.
Je les aide.
Voilà. Voilà. C'est ça. Il est avec nous.
Voilà. Sinon, au niveau de la plongée...
Je leur fournis la main d'œuvre.
C'est ça, c'est important.
Ah, c'est bien ça. C'est bien ça.
Parce que j'ai quelques éléments qui sont en formation.
C'est le groupe,
niveau
en fait.
2, voilà, qui sont passés dans la PSP.
C'est le club.
Voilà, c'est le club.
Donc, la plongée subaquatique. Ouais. On parlait tout à l'heure du niveau 1 pour participer aux compétitions. La plongée, ce sont des niveaux. Combien il y a de niveaux et comment ça marche au niveau qualification ?
Ben, on commence par le niveau 1, ça c'est le premier niveau de plongée qui permet de pouvoir plonger en mer encadré et qui permet aux personnes de descendre jusqu'à 20 mètres.
C'est-à-dire que sans ce diplôme-là, une personne lambda ne peut pas acheter un bloc, une bouteille, la mettre sur le dos, prendre un masque et plonger. Il n'a pas le droit.
On peut toujours faire, c'est comme rouler sans permis, on peut faire aussi, mais pour être en règle.
Ouais, mais,
pour
mais si tu es contrôlé avec voilà, la voiture, voilà. Mais en mer, tu peux être contrôlé.
Certains, oui, et on est de plus en plus contrôlé d'abord.
Donc, tu n'as pas du tout le droit.
Non.
Je pensais qu'on pouvait.
Il faut passer par une structure agréée, bon, commerciale ou associative comme nous, et puis passer des niveaux pour pouvoir plonger encadré et par rapport à des réglementations strictes. Quoi. On ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Après, tant qu'il n'y a pas d'accident, tant qu'il n'y a rien, on peut toujours faire ce qu'on veut, mais voilà quoi.
Donc, le niveau 1, c'est vraiment le minimum.
C'est le démarrage, voilà. Quelqu'un qui veut commencer à faire un peu de plongée, il passe son niveau 1 et après, il peut plonger encadré avec des clubs ou des structures commerciales, en vacances. Voilà. Après, il y a le niveau 2 qui est un petit peu au-dessus du niveau 1, qui permet après à ces gens-là de plonger sans encadrement. Ils vont être autonomes. Hein. Voilà. Et après, le niveau 3 et le niveau 4 pour être encadrant.
Donc, le niveau 4, c'est pour encadrer, hein, c'est ça ?
Un niveau 4, il peut encadrer une palanquée, voilà, mais il est pas. Après, il y a des formations en parallèle au niveau de plongée qui sont des formations d'initiation qui vont permettre au niveau 4, par exemple, de faire de la formation. Et même à partir du niveau 2, on peut le faire.
Avec l'initiateur ?
Avec l'initiateur, voilà. Il y a deux façons de se former. Il y a les curseuses de formation plongée, pour faire de la plongée sans forcément faire de l'encadrement. Et après, en parallèle, il y a une structure de formation, un enseignement, voilà, à partir du niveau 2, pour faire de la formation en piscine ou en mer. Voilà.
Et toi, tu as quel niveau ?
Je suis niveau 5, E2-P5, c'est-à-dire encadrant plongeur niveau 4 encadrant, et P5 pour être directeur de plongée. C'est depuis pas très longtemps.
Et je sais qu'il existe aussi le monitorat fédéral.
Oui, ça c'est notre structure. C'est après le niveau 5, on peut passer par exemple le MF1. Ça a dû changer, il y a déjà des choses, je ne sais pas.
Sandrine,
tu passes toujours le MF1. Si, tu passes toujours le MF1.
On passe par le MF1, voilà. Mais
il faut déjà passer par le niveau 4, être guide de palanquée pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir accéder au moniteur fédéral.
Voilà, c'est ça.
Après, le moniteur fédéral, il va pouvoir lui toujours encadrer, hein, bien sûr, en plus enseigner. Et après, c'est des enseignements, en fait, c'est des niveaux d'enseignement. Tu as l'enseignement en premier degré, deuxième degré, etc. Voilà. Et tu vas pouvoir enseigner de plus en plus profond, en fait.
Après, c'est que de la pédagogie, après. Les niveaux de plongée, c'est jusqu'à niveau 4. Après, niveau 5 et tout ça, c'est que de la pédagogie.
C'est que de la pédagogie.
Voilà. Après, c'est des niveaux de pédagogie et d'enseignement qui sont différents. Voilà.
Alors, tout à l'heure, Sandrine parlait pour la PSP que les enfants pouvaient plonger qu'à partir de l'âge de 10 ans.
Ouais.
Au niveau de la plongée traditionnelle, c'est également 10 ans ?
Ça commence officiellement à 8 ans. Nous, au club, on les prend à partir de 10 parce qu'on considère que 8 ans, c'est un peu jeune. Mais bon, officiellement, la fédération autorise à faire plonger les enfants à partir de 8 ans.
Ouais. Et après, au niveau du niveau 1, est-ce qu'il y a un âge minimum ou pas ?
Niveau 1, c'est 14 ans. Pour avoir le niveau 1, il faut avoir au moins 14 ans. Voilà.
14 ans.
Avec une éventuellement dérogation à 12 ans.
On peut éventuellement, voilà. Après, en dessous, on peut toujours passer des niveaux de plongée parce que Sandrine parlait tout à l'heure de plongeur d'argent ou le plongeur d'or. À la Fédé, on a mis en place des cursus de formation pour les jeunes enfants. Parce qu'un enfant qui vient à la piscine à 10 ans pour faire de la plongée, si on ne lui fait pas passer d'examen jusqu'à 14 ans...
C'est vrai que c'est long pour lui.
Ça va être long, voilà. Alors, on leur fait quand même passer des examens à leur niveau. Plongeur de bronze, plongeur d'argent, plongeur d'or, qui sont un peu l'équivalent des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Ça permet aux enfants de faire des prorogations pendant 2-3 ans pour atteindre le niveau 1. Et quand ils auront 14 ans au niveau 1, on peut leur faire passer une vraie formation. Et après, avec ça, ils peuvent quand même plonger en mer. Même les plongeurs de bronze, les plongeurs d'argent peuvent aller plonger en mer avec un encadrement.
Avec un encadrement,
ils sont limités dans la profondeur, ils sont limités. Enfin, il y a certaines choses à respecter, mais on peut quand même les faire plonger en mer.
Est-ce que pour plonger, il faut savoir nager ?
C'est pas forcément obligatoire. Hein.
Oui, parce que on est au fond de l'eau.
On est là pour couler.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question. Est-ce qu'il faut savoir nager
c'est
pour
pas
pouvoir plonger ?
Non. On a eu des personnes qui venaient passer niveau 1 qui n'étaient pas forcément de bons nageurs.
Très aquatiques.
Ouais. Il y a bons nageurs et savoir nager. Tu peux être vraiment débutant.
Et encore, il y a des personnes qui étaient formées au club et qui avaient même un peu une phobie de l'eau, qui ne mettaient pas la tête sous l'eau et qui ont fini par être même à niveau 2. J'en connais une qui est...
T'en connais une très proche, non ?
J'en connais une très proche, ouais. Et voilà, qui ne mettait pas la tête sous l'eau du tout et qui nageait bon, normalement, mais sans plus, et qui a fini par être niveau 2, et maintenant elle apprécie bien.
Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune, au niveau appréhension de l'eau, etc., il n'y a aucune contre-indication à part la personne ?
Non, non, du tout. Il faut que la personne se raisonne et puis arrive à passer à vaincre ses peurs et à faire confiance au moniteur, et après ça peut fonctionner. Hein.
Les gens ont tendance à associer ça avec la claustrophobie, alors que c'est faux. Mais bon, c'est vrai que le problème en plongée, c'est qu'on ne respire quand même pas comme sur Terre, et effectivement, ça peut angoisser quelques personnes.
Le fait de respirer sous l'eau, déjà, ce n'est pas naturel. Si on arrive à passer ce cap... Après, en faisant confiance au moniteur, en faisant confiance au matériel, bon, on peut arriver à avancer. Il faut arriver à passer le cap de respirer sous l'eau. Ça, c'est pas naturel du tout.
C'est pas naturel, mais c'est quelque chose qui s'apprend.
Oui, ah oui, ça s'apprend bien. Ça
Parce qu'il existe aussi des baptêmes de plongée.
Ouais.
Donc, comment ça s'est organisé, les baptêmes, au niveau du club, par exemple?
Les baptêmes, on les organise plus ou moins, mais au mois de juillet, on fait toujours une matinée, souvent baptême, un dimanche matin, de 10h à midi, par exemple. Et là, n'importe qui peut venir faire un baptême, il n'y a pas besoin d'avoir ni de certificat médical, ni rien. On aborde les personnes en discutant un petit peu avec eux, on leur explique un peu comment ça fonctionne, et puis on les prend doucement, en les faisant évoluer dans 3-4 mètres d'eau, pas plus.
Donc ça veut dire qu'ils mettent la bouteille, le masque, ils vont vraiment faire de la plongée.
On les équipe comme un plongeur, équipement complet, voilà, pas de combinaison, parce qu'on en piscine, mais bon, le bloc avec le détendeur.
C'est bien pour découvrir justement cette discipline, parce que quand on va en mer, on n'a pas forcément la possibilité de faire des baptêmes, ou si on en fait, c'est assez cher, non ?
On peut les faire, mais c'est plus compliqué en mer. Déjà, il faut une combinaison, s'il fait froid, il faut mettre un peu de plombage, et puis les conditions de mer...
Si on a une appréhension déjà avec le matériel, c'est bien difficile. De commencer en piscine, c'est plus facile, la visibilité est bonne, il n'y a pas les soucis de la mer...
L'eau est bonne,
L'eau est chaude, il n'y a pas toute cette...
Puis on ne part pas en bateau, parce qu'aller faire un baptême en bateau, en mer, quand on n'a jamais pris le bateau, quand on a un peu d'appréhension, quand la mer est mauvaise...
Si t'as mal de mer, t'imagines
Ça fait beaucoup de contraintes.
C'est même plus un baptême, c'est un cauchemar.
Ça fait
ça le mal de mer, ça atteint des fois les très bons plongeurs. Hein.
Tout le monde est malade, même les moniteurs. Hein. Ça
même
peut
les
arriver.
Moniteurs.
Ça arrive.
C'est vrai que des fois, ça bouge un petit peu quand même sur l'eau.
Il ne faut pas le faire voir, mais on n'est pas bien des fois.
On est contraint après avec la météo, effectivement, aussi pour sortir, pour nos plongées. Quoi, donc,
Et sinon, au niveau du club, comment ça se passe au niveau des entraînements? Donc c'est en piscine?
Alors c'est en piscine, le mardi et le vendredi.
À quelle heure?
De 20h. Ben on se réunit vers 20h, mais on est à l'eau vers 20h15 jusqu'à 22h. Le vendredi et le mardi et vendredi. Voilà.
Et vous alliez la pratique, les cours théoriques, comment c'est organisé justement?
On met trois lignes d'eau dans le bassin. Bon, y a, le mardi, par exemple, les niveaux 1 se mettent à l'eau, font un peu de pratique dans le bassin. Et le vendredi, ce sera les niveaux 2 qui vont se mettre à l'eau. Et puis après, de temps en temps, il y a un peu de théorie, surtout pour le niveau 2. Pour le niveau 1, il n'y a pas grand chose en théorie, mais on en fait un petit peu quand même.
Et les enfants, vous les acceptez quand?
La PSP, les enfants, on les met le vendredi, parce que comme il y a trois lignes d'eau, le mardi, il y a les niveaux 1,
la PSP,
et puis les personnes qui ne veulent pas faire forcément de formation, ils font que de la natation libre, on a quand même une ligne pour faire de la natation libre, et le vendredi, pareil, à la place des niveaux 1, on met les niveaux 2 à l'eau, avec les enfants, puisque là, il y a une ligne d'eau pour les enfants le vendredi.
À la place de la PSP.
Voilà, et une troisième ligne d'eau pour les personnes qui veulent faire de la nage libre ou du palmage. Voilà.
Et comment ça se passe au niveau des sorties? Vous faites des sorties en mer, en lac, en...
En principe, on fait des sorties en mer. En lac, on pourrait faire, mais on n'a jamais fait. On n'a jamais fait vraiment. On avait fait une année une plongée sous la glace, mais c'était un peu comme ça.
Il faut déjà qu'il y ait de la glace.
Il y en a eu. Pas ici, mais il y en a eu.
Ouais.
Régulièrement, on fait une plongée par mois.
Une plongée par mois?
Club. On s'oblige à faire au moins une plongée club par mois. Voilà.
C'est bien comme ça, au moins, ça permet justement de...
Et plus si on peut. Après, ça dépend de...
Pour certaines formations, on est un peu obligé. Hein. La formation de niveau 1 peut se faire en piscine. Mais à partir du niveau 2, il est préférable de sortir en mer. Les profondeurs, on ne les a pas en piscine. Donc...
Les sorties qu'on fait en mer une fois par mois, c'est des sorties club ouvertes à tous et pas forcément techniques. C'est des plongées loisirs. Mais en plus de ça, on va cadrer des plongées techniques pour les personnes qui vont passer d'un niveau 2 ou 3 ou autre. Et on est obligé de plonger à part du club pour faire de la technique spécifique.
Mais tu disais, Sandrine, que c'était effectivement en mer, on a de la profondeur qu'on n'a pas forcément en piscine, mais j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça aux informations, la piscine avec une fosse de plus de 40 mètres.
Oui, tout à fait.
C'est un petit peu loin.
Ça existe, mais enfin, ils sont loin.
Ils ne sont pas vraiment à portée de main. On avait une belle fosse à Nîmes qui est un peu en travaux, mais c'est dommage.
Ouais. Mais c'est vrai qu'en regardant les infos, je ne sais pas, Alexandre, si tu as pu voir les infos.
Non, pas du tout.
Il y avait une fosse avec beaucoup d'apnéistes qui y allaient et 40 mètres de profondeur.
C'est en Italie, je crois.
Non, en France.
Il y en a une en Belgique. En Belgique, une en Italie, et en France, je ne sais pas. 40 mètres.
Il faut que je retrouve où j'ai trouvé.
Il me semble que c'est en Italie. Enfin, moi, je ne veux pas te dire de bêtises. Mais...
Ouais, mais nous, on est des plongeurs de mer quand même.
De mer. Non, voire des poissons. Parce qu'en
piscine, ça va pas les carreaux.
C'est vrai que Il n'y a pas beaucoup de poissons en piscine. Hein.
Mais pour faire de la formation, c'est très bien. C'est très très bien.
Et oui.
Ça permet de faire des exercices à l'abri.
Ah, surtout l'hiver, voilà, c'est surtout vrai qu'on l'hiver. Est bien ouais. en fosse.
Vous avez un site internet ?
On a un site internet, tout à fait.
Page Facebook ?
Oui,
bien sûr.
Page bah Facebook oui. aussi.
Vous êtes super connecté en fait, avec tous les jeunes qu'il y a.
On est en direct à chaque instant pour chaque,
pour chaque événement.
Chaque ouais. événement.
Tout ce qui se passe est sur Facebook, tout.
J'avais une question concernant la plongée. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières ? Parce que c'est vrai que, est-ce que si on est asthmatique, ben, on est à
l'épreuve
de cœur...
Ça, c'est le certificat coeur. Médical qui va le dire. C'est
mais un médecin traditionnel peut faire un certificat médical ou il faut vraiment un médecin spécifique ?
Ça dépend, en
ça
fait.
Ça dépend, ouais, voilà. C'est pas...
Nous, on a instauré au club, là, simplement sur, pour faire de la plongée loisir, on va dire, le certificat médical par un médecin. Mmh. Médecin du sport, médecin fédéral, pourquoi pas, ou plus. Pour les enfants, c'est obligatoire d'avoir un médecin spécifique. Mmh. Mais après, pour les adultes, non. Sauf après pour les passages de niveau. Les gens qui veulent passer le niveau 1, le niveau 2 et plus, doivent passer par minimum un médecin du sport. Mmh. Après, il existe les médecins fédéraux, qui peuvent aussi être là pour faire les consultations. Et éventuellement, après, on passe aux médecins hyperbares, etc. Pour plus de...
Oui, pour plus de... De sérénité, en tout cas,
voilà,
de contrôle.
Bah, c'est mais bon, c'est pas, c'est, ce n'est pas obligatoire. Après, c'est des médecins voilà, qui sont ouais, spécialisés. Médecins, nous, on n'est pas spécialisés, hein, hormis quelqu'un qui aurait vraiment une forte contre-indication, par exemple, à l'asthme. Là, oui, mais après, le reste, normalement, on peut
de
faire de la
plongée. À partir du moment où le certificat
quand.
Médical certifie que la personne peut faire de la plongée, à notre niveau, on n'est pas médecin. On ne peut pas aller contre,
oui,
on peut pas aller contre médecin. Un médecin, il te certifie.
Non, mais après, il peut y avoir des pathologies qui sont totalement en contre-indication avec la plongée.
Après, on n'est pas équipé pour faire de l'handisport. Ça, c'est toujours pareil.
C'est vrai qu'en plus, la piscine n'est pas tellement adaptée non plus. Donc,
une personne qui aura un handicap physique, on ne pourra forcément pas.
Par contre, à Avignon, je crois qu'ils ont une section pour les personnes handicapées.
Au Pontet, ils ont une section pour les personnes à mobilité réduite. Oui, c'est ça.
Donc, les rendez-vous importants donc, à Carpentras. Donc, si j'ai bien compris, cet été, des baptêmes de plongée seront proposés par le club.
Chaque année, on organise une matinée.
Voilà, donc se renseigner directement sur la nautique.
Après, il est toujours possible de faire des baptêmes. Voilà, si les gens sont intéressés, il est toujours possible de faire des baptêmes. Donc, les mardis et vendredis, le sachant à l'avance.
Ils font
bien
quoi
sûr.
Ils se
présentent.
Hein,
y a
ils
toujours,
passent à la piscine.
Du monde à la piscine. Voilà. Ils se présentent en début de séance. Et,
vers 20h, 20h30.
Voilà, à partir de 20h.
S'il y a deux ou trois baptêmes à faire, c'est faisable. Après, il ne faut pas qu'il y ait un groupe important, mais deux ou trois baptêmes. C'est faisable. Y a
donc
pas
le
souci.
Mot de passe c'est RTVFM et comme ça au moins ils pourront
voilà.
venir faire
exactement.
Le baptême.
Voilà, c'est ça.
Et l'autre rendez-vous important, ça sera le 3 septembre.
C'est ça, pour un nouveau championnat donc départemental à la piscine au stade de Coubertin, donc de Carpentras, pour une compétition de PSP. Voilà. Ouais.
Combien de clubs sont attendus?
Pour l'instant, les inscriptions sont. Enfin, tout le monde est un peu sur le championnat de France. Donc, les inscriptions ne sont pas lancées.
Mais l'année, il y a eu
mais l'année dernière, on était 8 clubs à participer. Donc, je pense que ça sera toujours les mêmes. Mais normalement, on attend du monde. En général, on a une super journée en plus. Donc, il y aura du monde.
Il y aura du monde.
Voilà.
Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux, hein, Olivier Vidal merci. Et Sandrine Valentin, d'avoir accepté déjà notre invitation, d'avoir
merci
parlé
à
de la plongée, de la PSP.
Merci à toi Lionel, c'était un plaisir de venir participer à ton émission.
Ouais.
Ben merci, très c'est très gentil. Bien. Nous on fait une petite pause et allez. Puis après on parlera karting. Donc si vous souhaitez rester, vous pouvez rester.
On va écouter.
Je sais pas s'il y a des baptêmes de karting, on aura l'occasion justement d'en
parler.
On peut
faire des échanges, on peut faire des baptêmes de plongée en échange d'un baptême de karting.
Ben
ça,
voilà,
ça
ben tiens, on va pouvoir négocier.
Voilà, on va voir ça.
Allez, on fait la petite pause et on se retrouve juste après ça.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's waking up to drive you home when you're drunk and on the
I had a dream. We were back to 17. Summer nights and the libertines. Never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories. But you know I'm gonna leave behind the worst of all.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Nous rentrons maintenant dans la deuxième partie de l'émission avec Jean-Marc Portal, le nouveau président de la SK Comtat Vénessin. Ça va Jean-Marc ?
Ça va très bien, oui.
Alors avant quand même de parler de karting, je suis encore avec mes amis de la plongée, Olivier Vidal et Sandrine Valentin. Et pendant la pause musicale, Sandrine, tu me disais, zut, j'ai oublié de préciser quelque chose tout à l'heure.
Oui, une information, on parlait des enfants tout à l'heure. Et notamment, là, on a une classe de Carpentras, du Collège Fabre. Ça fait la troisième année consécutive qu'on réitère le programme. Et en fait, on accueille donc une classe sur six séances, une classe de 24 élèves. Et donc, ils viennent se former par l'intermédiaire du pack découverte qu'on a à la FEDE. Donc, c'est des séries de plongées où ils vont apprendre à se servir du matériel, etc. Donc, ça passe par un baptême. Et puis ensuite, on les apprend, on leur apprend à plonger, enfin, les bases de la plongée en tout cas.
Et ils sortent avec quel diplôme après ?
Donc, ils ne sortent pas spécialement avec un diplôme. Ils auront une carte comme quoi ils ont fait un pack découverte. Mais ça peut... Ça dépend si ça les intéresse ou pas, hein, mais ils peuvent éventuellement continuer vers ce qu'on appelle maintenant les PE12, donc c'est-à-dire pour plonger à 12 mètres, les plongeurs encadrés à 12 mètres, ou éventuellement, pourquoi pas, rentrer en formation niveau 1. Donc on les a pendant 6 séances à la piscine, donc là ça commence demain soir.
C'est la première session ? Il y en a déjà eu des élèves ?
Demain soir c'est la première séance de l'année. On a déjà fait cette expérience depuis 2 ans. Donc c'est la troisième année consécutive où on fait ça. Et ensuite, une fois qu'ils ont terminé leur séance, les six séances, pardon, on les amène avec nous. La première fois, on les avait amenés à la fosse de Nîmes. Donc justement, on parlait de fosse tout à l'heure. Donc là, c'était une belle expérience pour eux. Et l'année dernière, on les avait plongés en mer pour pour leur dernière plongée du pack. Donc... une expérience bien sympa. On a leur prof Romain Desplanches qui est lui aussi plongeur et qui a lancé ça avec une grande motivation. Et je pense qu'on réitérera l'opération pour les années à venir.
Et c'est très, très prisé par les élèves ? Ils se battent pour venir ?
En fait, la première année, c'était la classe de Romain. Donc lui, il leur avait déjà parlé de la plongée. Il les avait même... bien coaché au niveau théorie, ils en savaient plus que certains de chez nous.
C'était plus fort que nous.
du coup, il était super fan et il y avait les enfants qui étaient très très motivés. Et après, ça c'est comme tout, hein, ça dépend des années, ça dépend des jeunes, quoi,
des groupes.
Il y en a qui sont plus ou moins
aquatique et motivé.
Aquatique, motivé. Bon, après, c'est à la même heure que nos entraînements. Hein, donc, c'est 20h, 22h. Donc, c'est pas toujours facile non plus. Mais c'est le prof qui s'occupe de tout. Et après, voilà, ils sont avec nous pendant un week-end. Alors, cette année, ça va se passer un petit peu différemment. Ça sera en semaine. Mmh. On les emmènera en semaine avec quelques initiateurs et moniteurs de Carpentras. Voilà, ça arrangeait tout le monde, en fait, et nous et eux. Donc, on sortira en mer au mois de juin.
Ben, c'est une bonne initiative. Et puis, effectivement, ça peut créer justement...
Et oui, et on est à l'écoute.
Une dynamique par rapport à justement, et puis même sur la promotion de la plongée. Hein.
Tout à fait. Si d'autres personnes étaient intéressées, voilà, y a pas de souci, ils peuvent également nous contacter.
Bon, et si vous êtes intéressés tous les deux, Olivier et Sandrine, par le karting, justement...
On peut contacter le président.
On peut contacter Jean-Marc Portal.
Exactement.
On peut faire des baptêmes de karting ?
Alors, nous, au club de Carpentras, vu qu'on est beaucoup limité en horaire, on fait des séances de découverte. Si on peut permettre à des candidats intéressés de faire 10 minutes avec un kart du club, où ils vont apprendre les sensations d'un vrai kart de compétition. Voilà. Après, on ne peut pas faire de location, on n'a pas cette vocation, on n'a pas l'autorisation non plus.
Non, mais on peut quand même, parce que c'est vrai que souvent, ce qui bloque pour entrer dans un club de karting, c'est l'achat du matériel, parce que c'est pas donné non plus, hein, c'est un investissement. Donc, il faut vraiment que ça intéresse. Donc, l'idée, c'est là, il y a quand même possibilité de faire un essai.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà, ceux qui sont intéressés peuvent venir. Donc, ils nous contactent à l'avance, on réserve le kart, voilà, sur une session de 10 minutes, ils découvrent. Et éventuellement, on peut leur en faire faire une seconde. Mmh. Après, on se limite à deux séances. Voilà.
C'est pas... Et la durée des séances, c'est combien ?
C'est environ 10 minutes.
10 minutes ?
Oui, 10 minutes environ. Voilà. Et en général, ils ressortent conquis.
Ah bah ça, j'imagine, parce que c'est vrai que c'est
assez... des sensations qu'on n'imagine pas avant. On en voit régulièrement qui ont fait du kart de loisir en moteur 4 temps.
Et justement, c'est quoi la différence entre justement ce qu'on appelle les tondeuses à gazon, plus communément, je crois qu'il y a même un centre à Monteux.
Voilà, il y a une piste à Monteux, voilà, qui font de la location. Donc, ils ont des moteurs, comme on appelle ça, les tondeuses à gazon. C'est des moteurs 4 temps, alors de cylindrée un petit peu plus élevée que les nôtres, mais qui sont beaucoup moins puissants, donc qui sont réservés pour la location, qui ont les mesures de sécurité nécessaires. Mmh. Voilà. Et donc quand ils viennent faire une séance découverte chez nous avec un vrai kart de compétition, alors ils nous disent « j'ai déjà fait du karting », on leur dit « attention, ça n'a rien à voir ». Et beaucoup finissent la session, ils ont les bras qui tremblent, ils sont tout rouges et ils se disent « effectivement, on ne s'attendait pas à ça ».
Parce que sur un kart de location, on peut aller à quelle vitesse ? Et en kart de compétition, quelle autre vitesse ?
Alors,
pour essayer justement de visualiser.
En karting de location, je ne connais pas les vitesses maxi atteintes. Ce n'est pas très très rapide parce qu'en général, c'est des pistes assez sinueuses où on ne prend pas de grosses vitesses. Après, à titre d'exemple, sur la piste de Carpentras à Saint-Ponchon, avec nos cartes de compétition, on peut les plus rapides prennent entre 135 et 140 km/h.
Ah oui.
Donc voilà.
Ça décoiffe.
Ça décoiffe pas mal.
Ça décoiffe pas mal, effectivement. Mais bon, c'est vrai que t'as jamais essayé avec ça ?
Non, jamais.
Jamais. Il faudra venir.
J'aimerais bien essayer, ouais, mais jamais essayé.
Non, franchement, là, justement, ce week-end, il y a le schéma régional que j'aurai l'honneur de présenter. Et c'est vrai que honnêtement, ça décoiffe et on voit vraiment de gros, de grands talents. Hein.
Tout
c'est
à
impressionnant.
Tout carrément. À fait.
Parce que quand on parle justement de la Formule 1, de tous ces grands champions, Prost, ah ouais. etc., ils viennent quand même du karting,
tout,
non ?
Tous ont démarré voilà, quasiment avec le karting. C'est l'école, c'est la base, ça permet de démarrer entre guillemets pour pas très cher et de grimper les échelons pour arriver au niveau ultime qui est la Formule 1 où là il y a très peu d'élus effectivement, mais c'est le cheminement classique.
Et au niveau justement du karting, quelles sont les catégories ?
Alors, il y a les catégories fédérales.
C'est des catégories d'âge ou de cartes ?
C'est des catégories d'âge. Et après, à partir d'un certain âge, il y a plusieurs catégories de moteurs, on va dire. Mmh. Donc, on démarre, alors je n'ai pas tout en tête. À partir de 6 ans, on peut attaquer avec les mini-cartes. Alors ça, c'est réservé aux écoles de cartes. Il y a quelques circuits qui font école de cartes. Donc, pour les petits de 6 ans jusqu'à 11 ans, ils font du mini-cartes. Et après,
Mais là, ils peuvent faire de la compétition ou pas ?
Non, ils peuvent faire des petites compétitions, mais sur les circuits homologués école de karting.
Et à Carpentras, c'est ?
À Carpentras, non. On n'est pas école de karting. Mais après, on a le droit d'organiser des compétitions. Et on prend donc la catégorie supérieure, qui est le minime, qui sont donc de 7 ans à 11 ans. Ils ont, on va dire, les mêmes cartes que les mini-cartes, mais c'est une catégorie différente. Et après, ça passe, donc, catégorie fédérale, les minimes, les cadets de 10 ans à 14 ans, la catégorie nationale de 12 ans et plus, il n'y a pas de limite d'âge. Et après, on passe sur les formules, les coupes de marque. Donc, il y a Rotax qui fait coupe de marque, il y a X30, la Yamé. Et la catégorie ultime, c'est ce qu'on appelle le KZ, c'est les kartings à boîte de vitesse. Là, c'est les plus rapides. Et les plus impressionnants.
Donc, en fait, les KZ-125, hein, KZ-2 c'est... maintenant, qu'on appelle.
Oui, c'est, on appelle KZ-2, mais en cylindré, ça reste 825 cm3.
Ce sont donc des cartes à boîte. Et si j'ai bien compris, ce sont des départs arrêtés. Donc, vraiment comme les formules. Hein.
Voilà, c'est la seule catégorie où on fait des départs arrêtés.
Et les autres, alors, c'est quoi alors, comme type de départ?
Alors, les autres, c'est le type, ce qu'on appelle départ lancé. Donc ils font un tour ou deux de formation de mise en température du moteur et des pneus et ils sont lancés au drapeau. Ils doivent être tous alignés sur les uns derrière les autres avec une vitesse moyenne
et constante.
Et au baisser de drapeau, ben, ils écrasent l'accélérateur et c'est parti.
Et le circuit de Saint-Pochon est réputé au niveau de la région ?
Alors, il est très, très apprécié au niveau de la région. C'est un très beau circuit où il y a les deux, c'est-à-dire du rapide, du technique. Et les pilotes apprécient beaucoup la piste.
Et en plus, bon, on en parlera, on développera un peu plus en fin d'émission, justement, sur le championnat régional. Mais il y a une nouvelle catégorie, et pas une nouvelle, mais il y a une catégorie qui s'est rajoutée cette année, qui est la catégorie TTI.
Exactement. Alors ça, c'est une coupe de marque aussi. Donc ils sont un peu moins nombreux, mais ils sont habilités, coupe de marque. Donc les TTI, alors c'est des moteurs un petit peu plus gros en cylindrée, c'est des 175 cm3, un châssis carbone et une carrosserie en polyester.
Un peu comme des prototypes.
Ça ressemble un peu à des prototypes. À la différence, on va dire, du KZ, alors ils ont aussi des vitesses comme les KZ, mais à la différence du KZ, ils ont ce qu'on appelle les palettes au volant. Pour changer les vitesses. Voilà, en performance, on se tient avec les KZ.
Oui, c'est à peu près pareil.
Voilà, c'est à peu près équivalent, puisqu'ils sont un peu plus lourds avec la carrosserie. Et c'est une catégorie voilà, qui fait aussi du spectacle.
Et donc, à Carpentras, vous avez quand même la chance d'avoir un super circuit. Il y a eu quand même de grandes stars qui sont venues pratiquer. Je crois que le circuit date des années 80, c'est ça ?
Et même bien avant.
Bien avant.
Bien avant. Cette année, en fin d'année, l'année dernière, on a fêté la 57e Assemblée Générale du club.
Ah oui.
Donc voilà.
Et donc, au niveau des stars qui sont venues.
Ben, on a eu du Alain Prost, on a eu du Jean Alési, on a eu beaucoup de grands pilotes, plus ou moins connus. On a ben, pour le responsable des TTI, c'est Dominique Tiercelin qui a été champion de France en karting. Et on a au club, au sein du club, on a Gérard Cavalloni, par exemple, qui est champion du monde 2015. Il a fait cette année troisième au championnat d'Europe. Voilà, on a Pierre-Louis Chauvet cette année qui est en tête du championnat de France junior. Donc, on a de nombreux pilotes performants.
Ah bah oui, on dirait, oui. Et justement, un jeune qui veut pratiquer, se mettre au karting, donc tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de faire un test, mais comment ça s'organise ? C'est-à-dire, on s'inscrit au club et parallèlement à ça, il faut acheter la tenue, le kart. Comment c'est organisé, justement ?
Alors, effectivement, après, pour venir rouler sur la piste, par exemple, de Carpentras, il faut avoir sa propre machine. Donc, il faut effectivement un investissement de départ. Alors un karting, on n'est pas obligé d'acheter une machine neuve pour commencer. On peut trouver une machine à partir de entre 1500, 2000 euros et au-delà. Quelque chose de déjà performant, fiable. L'équipement pilote, eh bien, un équipement complet, ça sera entre 800 et 1000 euros du bon matériel. Et puis voilà, on s'inscrit au club, on prend une licence et on a le droit de rouler sur la piste de Carpentras et sur n'importe quelle autre piste en France homologuée.
Les compétitions, il y a donc le championnat régional. Au niveau du club, vous participez qu'à ce championnat ou...
Alors, le championnat régional, cette année, il se limite à 3 courses. Mmh. Il y en a une qui n'a pas pu malheureusement s'organiser cette année. Nous en faisons partie. Il y a une épreuve qui se passe chez nous. Après, il y a ce qu'on appelle des courses clubs qui se déroulent sur une journée et qui sont organisées par différents clubs de la région. Et sur Carpentras, on organise effectivement en septembre la course des vendanges sur une journée.
Très bien, mais justement, on va parler du club dans quelques instants. On va faire une petite pause et on se retrouvera juste après cette petite pause. À tout de suite.
Elle recherche un mec posé qui n'aspire qu'à s'engager. Donc pour moi, c'est fait. Elle m'a vu parler à toutes les femmes qui sont passées. Elle fait beaucoup trop d'esprit. Moi, la vie, je veux la croquer. Yeah. Je lui dis que j'aime m'amuser, il me répond qu'elle apprécie mon franc-parler. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Aïe maman, aïe maman. Je vois que quoi qu'elle dise, elle est déjà piquée. Je ne suis pas son amie, ça non, elle peut l'oublier. Yeah, yeah. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait, me répond qu'elle adore, mais adore mon franc-parler. Oh. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Aïe maman, aïe maman. Laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, oui, laisse. Oh maman, non, elle a kiffé, 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 qui n'en aura kiffé, 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 original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer, original et décalé. On ne peut me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer, aïe maman, aïe maman.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio de RTVFM, le 102.2 en direct bien sûr de ce studio. On peut nous réécouter demain matin de 6h30 à 8h. Et bien sûr, le podcast sera à votre disposition. Je suis avec Jean-Marc Portal. Rebonsoir Jean-Marc.
Rebonsoir.
Nouveau président du club. C'est tout nouveau ça, depuis 6 mois, c'est ça ?
Ouais, un petit peu plus de 6 mois, disons que j'ai repris la présidence l'année dernière au mois de juin. Et puis, on a eu des élections en fin d'année et le club a voulu que je continue. Donc,
Voilà. Et avant de continuer, je voudrais juste quand même faire une petite parenthèse. Je voudrais que, si tu es d'accord, que l'émission soit dédiée à Étienne Étienne Bresse.
Avec plaisir. Ouais.
Parce qu'Étienne, c'est une grande figure du karting et même une grande figure carpentracienne.
Une grande figure, pas carpentracienne, un grand passionné du karting aussi, puisqu'il était toujours avec nous, sauf malheureusement les quelques fois où il était malade ou blessé. Mais c'était un grand passionné.
Donc il nous a quittés il y a 2 semaines, c'est ça?
Il nous a quittés il y a un peu 10 jours. Et voilà.
10 jours. Voilà, donc toutes nos pensées vont à sa famille, à ses amis.
Exactement.
Parce que je sais qu'il en avait beaucoup d'amis.
Exactement.
Et si vous voulez avoir des informations sur lui, je sais que sur le site de l'ASK Contavenessin, il y a un petit article sur lui.
On a mis un petit
sur
post, ouais, exactement. C'était quelqu'un de généreux, d'entier, qui disait ce qu'il pensait, qui disait des choses très intéressantes.
Oui, et puis c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître, et c'est vrai que c'était une personne très très attachante.
Exactement.
Donc voilà, donc on dédie cette émission à Étienne, j'espère que là où il nous écoute. Voilà, donc on revient bien sûr à ton poste de président, ça fait 6 mois. Avant, tu faisais quand même partie du conseil d'administration?
Avant, j'avais déjà intégré le bureau il y a 2-3 ans. Voilà, c'est du temps à consacrer, c'est la passion qui nous fait avancer, qui nous fait accepter ce genre de choses aussi. Donc voilà.
Parce que le club, tu disais 55 ans d'existence?
57 ans l'année dernière, en décembre.
Ans. Donc 58 ans cette année.
58 ans à la fin de l'année.
C'est une sacrée...
Une belle durée, ouais.
Une belle durée. Et comme on parlait justement pendant la pause musicale, donc Saint-Ponchon, c'était dans les années 80, et avant, le circuit était à Serres.
Exactement. Alors moi, effectivement, je ne l'ai pas connu sur Serres, mais...
C'est normal, on n'était pas nés tous les deux.
Pas loin, pas loin.
Comment il y a d'adhérents au club?
Alors, on était un club où, dans les bonnes années, on était monté jusqu'à 160 licenciés. Il y a eu une petite chute, il y a une dizaine d'années, et puis la crise de 2008 n'a pas arrangé les choses. Et là, on est sur la pente montante, c'est-à-dire qu'on est l'an dernier, on était à 125, et là, au jour d'aujourd'hui, on doit être déjà à 130 ou 135. Donc, on a une petite augmentation depuis 2 ans.
Et c'est pas mal, hein.
Et ça fait plaisir.
Ah oui, ça fait sacrément plaisir. Oui.
Alors, je pense, que ça fait aussi partie de la politique du club. On est un club qui se veut convivial, qui veut garder un état d'esprit amateur.
Donc, on n'est pas obligé de faire de la compétition.
Du tout. Du tout, du tout. Là, je dirais que les 3/4 des licenciés du club ne font du karting qu'en loisir, en entraînement. Ils ne font pas de compétition parce que la compétition, c'est un niveau supérieur au niveau, financièrement, et ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, ils viennent faire du loisir.
Et au niveau des entraînements, comment c'est organisé?
Alors, les entraînements, la piste de Saint-Ponchon, on est limité en temps de roulage. On a droit à un peu plus d'une centaine d'heures par an, réparties sur 11 week-ends actuellement. Il faut retirer la course de ce week-end qui va arriver, donc c'est un week-end qui saute. La course de septembre, c'est un deuxième week-end.
Et septembre, c'est la course club, hein, c'est ça?
La course club, voilà. Et les autres week-ends, on roule le samedi après-midi, le dimanche. On sépare les différentes catégories pour que les performances soient similaires pour les cartes qui sont en piste, éviter les risques d'accident.
Donc comment c'est organisé là? C'est une journée complète, un week-end complet?
Alors un week-end complet, c'est on vient à partir du samedi fin de matinée, on roule le samedi après-midi et le dimanche matin et le dimanche après-midi. On met à disposition, il y a une buvette, il y a le barbecue pour ceux qui veulent se faire à manger.
Ah oui, donc c'est très convivial.
C'est notre priorité.
Et donc les différentes catégories évoluent, comme tu disais, à tour de rôle.
Voilà, exactement. On regroupe les catégories par performance pour ne pas faire des gros écarts de vitesse sur la piste, pour ne pas faire peur aux plus petits, on va dire.
Et au niveau justement des plus petits qui débutent, est-ce qu'ils ont un encadrement particulier? Comment c'est organisé? Et autre question un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire il faut quand même savoir un petit peu bricoler parce que si le kart il tombe en panne, donc comment on peut gérer ces deux choses?
Il faut effectivement être un peu bricoleur ou avoir des parents qui soient bricoleurs ou sinon après intégrer une structure qui va s'occuper de ça pour vous. Mais en règle générale, c'est pour les enfants, il y a l'enfant qui roule et puis le papa qui est derrière qui fait la mécanique.
Et au niveau justement de l'encadrement, sur la piste, il y a quelqu'un qui peut les aider ou pas?
Alors sur la piste, quand ils roulent, on les laisse se débrouiller, ils apprennent. Après, il y a toujours quelqu'un sur le bord de la piste pour leur donner des conseils en pilotage ou même en réparation sur une machine qui est en panne.
Donc voilà, ils sont toujours accompagnés. Et les plus jeunes de chez vous, ils ont quel âge?
Eh bien, les plus jeunes ont 6 ans.
Ah, les plus jeunes...
On a quelques-uns qui ont 6 ans et qui...
Et ils participent aux compétitions qui vont avoir lieu ce week-end?
Non. En compétition, on n'en a pas qui... Pas chez nous. Ils préfèrent rouler en loisir. Alors, ils se font plaisir.
Ils se font plaisir.
Exactement.
Donc, ce week-end, il va y avoir donc, le championnat régional.
Ce week-end, le championnat régional, la dernière manche de cette année. Alors, il faut savoir que le championnat régional permet aux participants de se qualifier pour le championnat de France. C'est-à-dire qu'il y a 3 épreuves. Il faut qu'ils pratiquent. Qui s'inscrivent aux 3 épreuves pour pouvoir aller après en championnat de France faire les courses championnat de France.
Voilà, donc l'inscription aux 3 épreuves, c'est obligatoire.
C'est obligatoire, l'inscription et la participation.
Gagner ne suffit pas.
Non, gagner n'est pas nécessaire. Il faut qu'ils fassent les 3 courses pour pouvoir après s'inscrire en championnat de France et essayer de se qualifier un peu plus haut encore.
Donc là, il y a eu les 2 manches précédentes. Elles ont eu lieu à quel endroit?
Alors, la première manche a eu lieu à Brignoles, sur le circuit, et la deuxième au Castellet, il y a 3 semaines.
Et les Carpentraciens, ils se sont débrouillés comment?
Et les Carpentraciens se sont pas trop mal débrouillés. J'ai pas les classements sous les yeux, mais on a quelques podiums. Ils se battent bien.
Il y a M. Cavalloni qui, il a un bon...
Alors lui, il peut se permettre, vu son niveau, d'éviter ses manches régionales. Il part directement en championnat de France, en championnat d'Europe.
Donc cette année, il ne participe pas?
Non.
Parce que je sais que l'an dernier, il avait couru.
Et il n'avait pas fait toutes les manches.
Non.
Mais
il avait fait celle de Carpentras, bien entendu.
Non, même pas.
Ah bon?
Il était venu sur la piste, il était venu nous rendre visite, mais il n'avait pas participé l'année dernière.
Ah bon, tu vois, j'étais persuadé qu'il avait participé. Et donc, en fait, on fait toutes les manches, et après, on peut... Et le championnat de France, il a lieu à quel moment, alors?
Alors, le championnat de France a lieu un peu plus tard dans l'année, selon les catégories, sur différents circuits, et voilà.
Au niveau, justement, de ce week-end, ça commence samedi matin, vendredi soir? Comment
alors,
c'est organisé?
On a réussi à mettre en place avec la mairie l'autorisation de rouler vendredi après-midi en roulage libre. Et après, la course commence véritablement samedi matin avec les essais libres. Essais libres, essais chrono samedi, début des manches qualificatives. Et le dimanche, fin des manches qualificatives, pré-finale et finale.
Donc il y a des pré-finales en fait?
Tout à fait.
C'est comme des demi-finales, non?
On peut dire ça, oui.
Ouais. Et au niveau justement des spectateurs, on peut venir voir comment
L'accueil est accepté, l'entrée est libre. Il y a des zones réservées aux spectateurs. Voilà, après...
Des gradins, non?
Il y a des petits gradins, il y a des grillages après tout autour de la piste...
Donc on peut venir voir...
On peut venir regarder. La météo devrait être propice.
Donc tout est bien pour pouvoir justement venir voir ce...
Exactement.
Au niveau justement des courses, comment c'est organisé? C'est-à-dire donc c'est par catégorie?
Oui.
Et après, c'est à tour de rôle? Comment ça...
Alors, c'est l'organisateur. Là, pour le championnat régional, c'est la Ligue régionale qui organise la course et qui établit le planning. Ça roule par catégorie. Je ne peux pas donner, à l'heure actuelle, l'ordre de roulage des catégories. Je ne le connais pas. Mais en général, on finit. Alors, je crois que cette année, j'ai eu l'organisateur tout à l'heure. On va terminer. Les finales se finiront avec les TTI, les carbones.
Donc les TTI, c'est, je crois que c'est la première année qu'ils sont à Carpentras?
Non,
ou...
ils sont déjà venus il y a 2-3 ans.
2-3 ans.
Mais après, c'est vrai que les calendriers ne sont pas toujours faciles à adapter avec tout le monde. Les TTI font aussi ce qu'on appelle long circuit, c'est-à-dire qu'ils vont sur des circuits automobiles.
Ah oui, carrément?
Oui. Donc ils ont un programme, un calendrier qui n'est pas toujours compatible avec celui du championnat régional.
Et donc, au niveau justement des TTI, ces petits prototypes, s'ils vont sur des circuits plus longs, c'est qu'ils ont une autonomie plus importante ou pas du tout?
Non, c'est une autorisation de rouler sur des longs circuits. Même nos propres cartes ont le droit d'aller rouler sur des longs circuits.
Il y en a dans le coin ?
Alors, dans le coin, il y a le Denon qui accepte de temps en temps, qui font des séances pour les kartings. Alors, sur ces grands circuits, on peut prendre des vitesses qui vont entre 180 et 190 km/h.
Ah oui, donc... Surtout qu'en plus, on est très très bas sur les kartings.
Voilà, on est... selon la configuration, le siège peut frotter un peu le macadam.
Et toi, tu cours ?
Alors, je ne cours pas, je roule. J'ai une machine, je roule quand j'ai le temps. C'est vrai que.
C'est quoi comme machine que tu as ?
Alors, c'est un KZ, un petit peu âgé, mais qui fonctionne encore très bien. Et quand j'ai un peu de temps, je le sors, puis je roule sur Saint-Ponchon.
Donc, ce week-end, tu ne courras pas ?
Ce week-end, malheureusement, non. Je suis là en tant que président de club, organisateur, et en essayant que tout se déroule très bien.
Parce que je sais qu'au niveau des courses, c'est un peu... Parce qu'au départ, on pensait que, comme le BMX, c'était réservé aux jeunes et que les personnes d'un certain âge ne pouvaient pas participer. Mais il y a les catégories de plus de 45 ans.
Tout à fait. Il y a pas de, voilà, on commence avec les petits de 7 ans et on va jusqu'à, on peut dire, 77 ans. S'il y en a qui veulent encore courir, ils ont le droit.
Tu sais pas quel est le vétéran qui court ?
Non, honnêtement, j'ai pas
et
le...
Et au club, il y a le plus ancien qui court ?
Alors au club, qui court, je ne sais pas. Qui roule, on a Roger qui a passé les 77 ans. Et il roule encore, il reprend sa licence cette année. Et il n'est pas ridicule sur la piste.
Voilà, donc on peut venir en tout cas vous voir ce week-end.
Avec plaisir.
Je sais que l'an dernier, il y avait également la course des cartes anciens. Est-ce que tu sais si cette année, ça va être reproduit ?
Alors, non. En fait, ce n'était pas vraiment une course. C'était une journée où on reçoit tous les cartes, les anciens comme les modernes. Et comme on a essayé l'an dernier, ça n'a pas fonctionné. On nous a prêté une carte électrique. On devrait nous le reprêter cette année. Ça sera pour le mois de juillet.
D'accord.
Où là, il devrait fonctionner. On pourra faire des petites démonstrations de cartes électriques.
Et tu sais à peu près la date ?
Alors, je crois que c'est le premier week-end de juillet, le 2 ou le 3.
C'est le dimanche.
Voilà, le samedi après-midi et le dimanche.
D'accord, très bien. Un site internet ?
Le site internet, kartingcarpentras.com.
Très bien. Une page Facebook aussi, je suppose ?
Aussi, oui, j'ai pas le...
Non, mais on mettra tout sur le podcast.
Allez, ça marche.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Portal, nouveau président du club de l'ASK Comtat Vénessin, d'avoir accepté notre invitation.
Merci Lionel.
Bonne chance pour ce week-end.
Merci beaucoup.
Et puis, nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, dans deux semaines, pour présenter justement des événements sportifs qui auront lieu court en mai. Hein ? Merci beaucoup mon petit Alexandre. Repose-toi bien.
Merci à toi aussi, ouais, merci.
Merci mon petit Bruno. Merci Olivier Vidal de la plongée qui est resté avec nous jusqu'au bout. Et puis, à bientôt. Bonne semaine sportive.